On est de retour dans Trudeau-Landry. Ça a bougé en fin de semaine, Jérôme, politique américaine.
Oui.
Le deuxième procès en destitution de Donald Trump qui s'est conclu, ça finissait, que j'ai trouvé. Moi, je pensais pas que ça finissait si rapidement que ça. Mais bref, Donald Trump qui a été acquitté pour une deuxième fois. On s'y attendait, pas une grande surprise. On va en discuter évidemment avec Raphaël Jacob, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. Salut, Raph!
Salut, monsieur!
J'ai trouvé que ça avait fini rapidement en fin de semaine. Je pensais que c'était pour s'étirer un peu plus longtemps que ça. Est-ce qu'on a suivi l'horaire qui était établi?
On a suivi l'horaire qui était établi. En même temps, c'est normal que ça t'aille surpris. Parce que quand tu compares, par exemple, au procès qu'on avait eu il y a à peine un an, le premier procès en destitution contre Donald Trump, ça s'était étiré sur à peu près, en fait, le triple du temps. À peu près 3 semaines, là, ça va en avoir duré un peu moins d'une. Ça va avoir duré, au final, à peu près 5 jours. Donc, c'est très bref. En même temps, c'était voulu. Pourquoi? Parce que le parti qui contrôle le Sénat présentement, le Parti démocrate, a d'autres chats à fouetter. On n'est plus en année électorale. On est en fait au tout début d'une nouvelle année, d'une nouvelle présidence. C'est une présidence démocrate et on veut accorder le maximum de temps, d'énergie, d'effort à faire passer le programme démocrate. Donc, on se disait qu'on n'avait comme pas le choix de traîner l'ex-président devant le Sénat et en même temps, on voulait expédier le procès. Puis c'est ça qu'on a fait, là.
Qu'est-ce que tu penses des propos de Mitch McConnell, Raph? Est-ce que tu vois de l'hypocrisie dans les propos des élus républicains? Parce que McConnell dit « Ah, c'est Donald Trump qui est responsable de ce qui s'est passé le 6 janvier. Par contre, on peut pas destituer un président qui n'est plus en fonction. » Alors que les avis légaux disent l'inverse. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bien, premièrement, c'est pas juste que les avis légaux sont pas nécessairement unanimes là-dessus. C'est le fait que la raison qui est donnée par Mitch McConnell, le leader républicain, pour ne pas avoir condamné Donald Trump, c'est comme tu dis que le Sénat n'a pas le pouvoir constitutionnel de condamner un ex-président, un président qui n'est plus en fonction. Or, qui est responsable d'avoir fait en sorte que le procès ait lieu après le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche? Nul autre que Mitch McConnell. Pourquoi? Parce que quand il était le leader de la majorité, et ça s'est terminé donc le 20 janvier, M. McConnell a choisi de ne pas mettre à l'agenda le procès du président à l'époque, du président Trump. Donc, c'est pas nécessairement de l'hypocrisie comme tu l'entends, mais c'est évidemment d'une hypocrisie incroyable lorsqu'on le voit de cette façon-ci. Et l'autre chose, je pense qu'il faut quand même noter, parce que c'est majeur, c'est que oui, M. McConnell a voté pour acquitter Donald Trump. Une majorité du caucus républicain a voté pour acquitter Donald Trump. Et au final, on n'a pas eu les 2/3 nécessaires là, dans l'ensemble du Sénat. Ça en prenait 67/100, on le rappelle, pour condamner Donald Trump. Mais une fois que tout ça s'est dit, il y a quand même eu une très nette majorité, 57/100, qui ont voté pour le condamner. Ça, c'est du jamais vu dans l'histoire américaine, du jamais vu. On n'a jamais eu autant de sénateurs qui ont voté pour condamner un président, ou dans ce cas-ci, un ex-président. On n'a jamais eu une majorité qui était bipartisane pour condamner un président ou un ex-président, parce que, non, encore une fois, c'est loin de tous les républicains qui ont voté contre Trump, mais t'en as quand même eu 7, en plus des 50 sénateurs démocrates qui ont voté pour la condamnation. Donc, la minorité républicaine était vraiment isolée dans cette décision-là, et même dans cette minorité-là, qui inclut des gens comme McConnell, il y a beaucoup d'élus républicains qui sont sortis presque tout de suite après leur vote pour acquitter, en disant « ben OK, j'ai voté pour acquitter, mais c'était un vote technique, là, parce que sur le fond, évidemment que je condamne ce que Trump a fait. » C'est loin d'être un acquittement sur toute la ligne pour Donald Trump. C'est un acquittement constitutionnel, un acquittement technique, mais il sort de ça vraiment amoché, à la fois politiquement et historiquement, la tâche à côté de son nom dans les livres d'histoire va être énorme jusqu'à la fin des temps.
C'est ce que j'allais dire, en fait, Raphaël, c'est que les lendemains de cet acquittement-là sont totalement différents du premier procès où on se souvient Donald Trump triomphant avec la une, je pense que c'était du Washington Post, qui disait « on a gagné ». Là, il n'y a pas de quoi parader. Là. C'est quand même toute une gifle pour Donald Trump.
Absolument, absolument. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand tu parles d'espèce de une qui avait sorti, bon, pour essayer de flasher au lendemain de son premier acquittement, il a essayé quelque chose d'un peu semblable samedi avec un communiqué. Soit dit en passant, c'est quand même comique. Je sais pas si vous deux, ça vous frappe, mais de constater la différence de Donald Trump qui n'a plus Twitter, c'est incroyable. Imaginez à quel genre de fin de semaine on aurait assisté si Trump avait encore Twitter. Ouais. Ça a tout changé. Et là, quand. Et non seulement il n'y a plus Twitter, mais évidemment, il n'y a à peu près plus rien. Il n'y a plus de compte de médias sociaux, point. Il n'y a plus d'Instagram, il n'y a plus YouTube, il n'y a plus Facebook, il est barré partout. Et donc, quand il vient pour essayer d'émettre un communiqué, bien souvent, c'est surtout par la voix de son équipe. Fait que, oui, ça sonne un peu comme lui, mais ça n'a rien à voir avec ça. À quoi on est habitué. Et donc, il a essayé avec, encore une fois, une espèce de communiqué d'une page, de se montrer triomphaliste, mais comme tu le dis bien, Joe, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait eu l'an dernier. Là, la grosse question en ce qui concerne, c'est à quel point est-ce qu'il devient persona non grata dans ce parti-là? Parce que, encore une fois, oui, c'est vrai que c'est une majorité d'élus qui ont encore peur de lui, qui ont encore peur de s'antagoniser ses électeurs, mais je reviens aux sénateurs républicains qui, non seulement ont voté pour le condamner, mais même parmi ceux qui ont voté pour l'acquitter. On se parlait de M. McConnell, je vous en cite un autre, Kevin Cramer du Dakota du Nord, qui est un sénateur républicain dans un état hyper pro-Trump, qui a voté pour l'acquittement et qui a dit essentiellement pendant la fin de semaine, écoutez, il va être acquitté, mais politiquement, je pense qu'il est fini. Tu sais, fait qu'il y a ça. Il y a un an, il n'était pas du tout dans cette dynamique politique-là, puis je vous ajoute ceci rapidement. On compare à la situation il y a un an. Tu sais, je serais tenté de vous comparer la situation à celle qu'on avait il y a à peine 3 mois. Comparer politiquement Donald Trump au lendemain de l'élection, là, qu'il venait de perdre le 4 novembre. Oui, il l'avait perdu, mais il l'avait perdu par quoi? Par moins de 50 000 voix dans 3 États, avec l'appui spectaculaire de la quasi-totalité de son parti. Et s'il voulait revenir à ce moment-là, 4 ans plus tard, il était quand même bien placé pour le faire. Qu'on peut encore dire la même chose aujourd'hui, je vous soumettrais que non.
Hey, tu parlais de Twitter tantôt. C'est sûr que l'absence de Trump, ça paraît, mais on a vu. Moi, il y a beaucoup de supporters de Trump en fin de semaine, Raph, qui m'a envoyé la vidéo de son avocat. Je sais pas si tu as vu l'entrevue de son avocat à CBS avec une journaliste où ça dure 7 minutes où il tente de lui faire la leçon sur la vérité, sur les faux narratifs, etc. De voir l'avocat de Trump faire la leçon à quiconque sur la vérité, ça me rend mal à l'aise, Raph.
Je l'aime bien pas rire parce que tu parles de cette entrevue-là qu'effectivement j'ai vu qu'elle a fait un petit peu le tour des médias sociaux. Ouais. Quand on parle de sa défense légale, point, là, juste pas juste dans le cadre de cette entrevue-là, mais depuis la dernière semaine, il y avait quelque chose qui était, je pense, foncièrement pathétique. Là. Premièrement, invoquer le premier amendement, comme quoi le fait de le mener en procès, de mener un procès contre lui, c'est une atteinte à sa liberté d'expression. Je dis, c'est tellement ridicule. Un des procureurs démocrates, je pense, l'a très bien illustré, ça c'est dans un des tout premiers jours du procès la semaine dernière, quand il a dit, écoutez, la liberté d'expression, elle est très importante, elle est très prononcée aux États-Unis. Autrement dit, on peut dire presque n'importe quoi aux États-Unis, et c'est protégé par la liberté d'expression, mais on peut quand même pas dire n'importe quoi. Et l'exemple qu'il a donné, c'est une espèce de cas classique qu'on cite souvent là, dans les causes de liberté d'expression, c'est la fameuse histoire de crier au feu dans un cinéma. Tu vois, crier au feu dans un cinéma, même aux États-Unis, en disant que tu es protégé par la liberté d'expression. Et ce que le procureur démocrate disait, c'est, écoutez, dans le cas de Donald Trump et ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est pas simplement comme si on avait vu quelqu'un qui avait crié au feu dans un cinéma, c'est comme si on avait vu le chef des pompiers qui avait brûlé le cinéma. Tu sais, fait que la défense légale et l'argumentaire, disons, était pathétique. Puis, tu sais, juste ajouter ceci, Jérôme, je ne sais pas si toi, tu as vu la toute première journée de la défense de Trump, mais la première heure de sa défense par son avocat principal, ça aussi, ça a fait le tour des médias sociaux, parce que c'était sans queue ni tête et ça avait juste l'air de quelqu'un. Ouais. Puis, pardonne-moi l'expression, mais qui bullshitait parce qu'il n'y avait aucun espèce de contenu. Fait qu'au final, oui, Trump va avoir été acquitté, mais pour des raisons purement politiques, parce que sur le fond, évidemment que pour n'importe qui moindrement raisonnable, il était coupable.
Avant qu'on se laisse, Raph, je veux qu'on parle de Nikki Haley qui a fait une sortie en fin de semaine, l'ex-ambassadrice des États-Unis à l'ONU, qui était vue comme une vedette, qui est demeurée proche de Trump, même si elle s'était retirée de son poste. Et là, bon, elle dit que Trump les a abandonnés, qu'il ne peut pas se représenter. Est-ce qu'une sortie comme celle-là, on doit s'attendre à en voir de plus en plus, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir notamment se positionner pour ce qui va se passer dans le cadran?
Écoute, ça, là, on se laisse là-dessus, mais je vous dis tout de suite, on va s'en reparler, et beaucoup et souvent, parce que c'est, à ce stade-ci, la ligne de démarcation, la ligne de division la plus importante au sein du Parti républicain, incluant en vue de la prochaine campagne présidentielle. Puis s'il y en a qui se disent, c'est loin, on vient juste de finir une campagne présidentielle, non, c'est pas loin. Aux États-Unis, on est perpétuellement en campagne électorale et les gens qui veulent se présenter pour devenir président dans 3 ans et demi, 4 ans, là, sont déjà en train de prendre des positions en ce sens-là. Nikki Haley, pour ceux qui la connaissent peut-être un petit peu moins, là, c'est parce que ça mérite d'être mentionné, elle est probablement la politicienne la plus talentueuse qu'on a présentement dans le Parti républicain en vue de la prochaine élection. C'est, je pense que vous seriez d'accord avec moi tous les deux, là, c'est ce qu'on peut considérer comme une superstar politique. Et ce qui est super intéressant dans son cas, c'est que elle illustre vraiment l'espèce de position, l'espèce de jeu d'équilibriste impossible auquel sont voués ou sont dans lequel sont coincés les républicains. Parce que d'un côté, c'est quelqu'un qui s'était opposé à Trump pendant les primaires il y a 4 ans quand il s'était lancé la première fois. Après ça, elle avait gagné, l'avait nommée comme ambassadrice, donc elle avait accepté le poste, elle avait travaillé dans son administration. Après, elle quitte. Là, elle essaye de maintenir une relation proche, pas trop proche avec Trump. Là, il se passe évidemment ce qui s'est passé le 6 janvier dernier. Puis là, elle change son discours presque à 180 degrés. Comme quoi, elle est outrée, elle est dégoûtée. Elle essaie de faire à croire, là, dans l'entrevue que tu mentionnes, que le 6 janvier, pendant le discours de Trump, elle a fermé la télévision parce que c'était juste trop pour elle. Elle n'en revenait pas. Bon, tu sais, c'est sûr qu'il y a des sérieuses questions de sincérité là qui se posent à son égard. Puis je pense à l'égard de bien des politiciens de l'ère Trump qui vont essayer de lui succéder en se disant, tu sais, d'un côté, soit ils vont être vus comme étant puis mettre trop loyaux à Trump. Et là, c'est évidemment pour l'ensemble de l'électorat qui voit Trump de façon très négative, c'est hyper problématique. Ou ils vont être vus comme étant, en guillemets, insuffisamment loyaux à Trump pour le noyau dur de l'électorat républicain. Ou bien, comme Nikki Haley, ils vont être vus comme des opportunistes peut-être qui essayent de ménager la chèvre et le chou. Fait que ça va être une dynamique fascinante. Puis Haley, c'est probablement le premier gros exemple de ça, là.
On va suivre ça ensemble dans les prochaines semaines, prochains mois. Merci beaucoup, Raphaël.
Salut. C'est une longue réponse, hein?
Elles sont toujours bonnes. C'est long, mais c'est intéressant.
Bye.
Salut, Raphaël. Raphaël Jacob de la chaire Raoul Dandurand.